est 19h27 et comme chaque samedi sur Europe 1 dans votre grand journal du soir, on parle culture avec vous Philippe Bandel et vos invités.
La demi-heure culturelle de ce 18-20 avec Diane Chénouda. Bonsoir Diane.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Mathieu Charrier avec nous, bonsoir Mathieu.
Bonsoir à tous.
Et Thierry Geoffrotin, bonsoir Thierry.
Bonsoir Philippe.
Notre invité, last but not least, Didier Van Kovelaert. Bonsoir Didier Van Kovelaert.
Bonsoir.
Écrivain, romancier, auteur de pièces de théâtre, de films. Je vais citer un aller simple qui vous a valu le prix Goncourt en 94. Vous étiez un bébé à l'âge de 34 ans seulement, qui est devenu un film avec Jacques Villeray. Et là, vous sortez un nouveau roman chez Albin Michel. Ça s'appelle « La personne de confiance ». Vous est-il possible de résumer l'histoire ?
C'est une vieille dame qui choisit un jeune inconnu pour la défendre contre sa famille et essayer de la rendre folle. Sauf que le gars qu'elle choisit, c'est un greutier de la Fourrière qui l'a enlevé par inadvertance dans la voiture et il ne l'a pas vu. Il y avait des vitres teintées à l'arrière. Et puis un livreur de pizza le double en lui disant « Hey man, il y a une yeuve à l'arrière
ouais. ».
Alors il s'arrête et c'est une catastrophe parce que c'est le renvoi immédiat. Quand
ouais.
Et à partir de là, le destin des deux va basculer. Parce qu'il ne peut pas l'asseoir sur un banc, il ne sent pas, il ne peut pas lâcher la voiture parce qu'il y a des mouchards à bord du 4x4 de la Fourrière.
Mmh.
Et il ne peut pas la ramener dans sa voiture. Et il se dit, bon, je la laisse aux urgences en disant que j'ai trouvé sur la voie publique. Sauf que quand il s'arrête, elle jaillit de la voiture et elle lui dit, Victor, enfin, ils t'ont relâché. Et elle le prend pour son amant de la Deuxième Guerre mondiale. C'était une grande héroïne de la Résistance qui apparemment souffre un peu d'Alzheimer, de confusion mentale. Sauf qu'il va découvrir que c'est une interaction entre des médicaments qui est utilisée pour la faire passer pour folle. Et la manière dont il va, lui, pour juste sauver son job, rentrer dans son jeu, quand elle va reprendre ses esprits, elle se dit « c'est le type qu'il me faut ». Parce qu'il est malin, il est sincère, il est roublard. Et elle a besoin de ce type-là pour la sortir de la situation terrifiante dans laquelle elle se trouve. Elle, c'est Madeleine Larmor-Pleuben, alias Mamie Larmor. C'est la troisième marque de biscuits en France. C'était une aide-pâtissière partie de zéro qui a créé cette marque après avoir été une résistante à 17 ans. Et puis aujourd'hui, son neveu essaie de la faire passer pour folle pour s'emparer de son entreprise.
On était tous bouche bée dans ce studio à vous entendre résumer l'histoire. Et encore, vous avez raconté que la moitié et vous n'avez pas dit un détail narratif très important, c'est que le type qui raconte l'histoire est en garde à vue. Donc on sent qu'il est dans une belle mouise.
Voilà.
Et que personne ne croit à ce que vous venez de raconter.
Exactement, parce que c'est une histoire qui abat les barrières entre les âges, la classe sociale. C'est une vraie histoire d'amitié complémentaire qui débouche sur une situation invraisemblable où ce type risque sa peau et elle a peut-être laissé la sienne.
Oui, parce que lui vient de Bobigny, en banlieue, et la dame, on pense un petit peu à Madame Bettencourt.
Ouais, sauf que non, c'est vraiment...
Ne me dites pas que vous n'y avez pas pensé en l'écrivant.
Non.
La dame qui a beaucoup d'argent et dont une partie
non,
de sa famille veut faire croire qu'elle a perdu la boule.
Elle a pas beaucoup d'argent.
Pour capter l'héritage.
L'idée, il n'est pas venu. L'idée, je veux dire, elle est venue d'une célèbre marque de biscuits. Vous savez,
c'est pas vrai.
Il y a l'aide de la mère Poulard dessus.
Oui.
Où il y avait
je pensais à Papy Brossard qui était mort et ce n'était pas le vrai Papy Brossard.
Eh bien voilà. Mais donc ça c'est des vieilles images qui s'est greffées sur une autre situation. Je vois dans la rue, je vois un gars qui enlève une voiture avec les vitres teintées. Je me dis, s'il y avait quelqu'un dedans, qu'est-ce qui se passerait
ouais.
C'est comme ça que naît un roman. Et après, on se dit, quelle rencontre permet cette situation? Et en fait, la vieille dame va devenir en plus le trait d'union dans l'histoire d'amour impossible de ce gamin avec sa voisine du dessus, Samira, qu'il n'ose pas aborder. Sauf qu'elle est étudiante en pharmacie. Donc elle, tout à coup, s'il lui amène la mamie gâteau et qu'elle peut l'aider justement dans cette situation de médicaments qui la font passer pour folle, là, tout à coup, ça va devenir une histoire d'amour possible. L'histoire d'amour et d'amitié entre ces trois générations. Et voilà.
Et on ne raconte pas la fin.
Ah non.
Le conducteur Grutier a tout un vocabulaire. Vous l'avez inventé, le vocabulaire, ou pas?
Moi, j'invente d'abord et je vérifie après.
Ça existe vraiment ou pas?
Le KIR, le contrevenant.
En instance de règlement.
Non, je l'ai inventé, ça.
Ah bon, et le Q aussi.
À
et
votre avis.
En fait, ce qui est tellement incroyable chez vous, Van Kovelaert, c'est que ça paraît à la fois totalement réel et totalement saugrenu.
Mmh.
Donc, je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai préparé plein de questions pour savoir si c'était vrai ou pas vrai. Dans le livre, Madeleine, la vieille dame, veut organiser en Suisse, dans un grand hôtel de Lausanne, une cérémonie très luxueuse. Elle convie tous ses amis, dont certains qu'elle a connus pendant la guerre 39-45, certains même allemands. Elle réunit tous.
Y compris l'officier allemand qui avait réquisitionné le château où elle travaillait.
Pour se suicider en douceur par euthanasie. Vous l'avez inventé?
Non, ou ça existe, ça. C'est... Ouais, c'est pas une fête, c'est une cérémonie, quoi. Enfin, c'est...
Bah, ils font ce qu'ils veulent.
Là, c'est une fête et elle a des grands crus de Bourgogne. Non, non, c'est
oui,
vraiment
non, mais ça,
la fête.
Pas, là,
non, aller
à Lausanne. Si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse sur une situation qui est une situation qui pourrait n'être que dramatique,
ouais.
De quelqu'un qui se dit « je ne supporte pas d'infliger à mon entourage le fait que j'ai un Alzheimer, que je parte par petits bouts. Donc, je décide de mettre fin à mes jours. Mais j'en fais en même temps une fête et surtout l'occasion de réunir les gens importants de
j'ai
ma
compris
vie.
Tout ça.
Une dernière fois.
Je voulais juste vous demander, est-ce qu'il y a des précédents? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont fait ça? Qu'on réunit tous les amis avant de partir?
Oui, alors ça, je connais. C'est la mère d'une amie en Belgique qui a fait ça. Et quand elle m'en a parlé, elle avait des larmes dans les yeux et il y avait un immense sourire. Parce que c'est justement s'entourer avant de prendre la décision de tous les gens qu'on aime, de revoir tous les moments chouettes de sa vie, d'espérer peut-être que l'un d'entre eux va trouver les mots pour vous dissuader de mettre fin à vos jours. Et puis après, eh ben arrive le moment où on a décidé l'injection et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, c'est la suspense du livre.
Didier Van Kovelaert, on ne peut s'empêcher de penser à votre père. Il voulait se suicider quand vous aviez 7 ou 8 ans. Et vous avez décidé, vous, le petit garçon, de l'en empêcher avec vos moyens à vous.
Ouais, c'est-à-dire de faire quelque chose de tellement incroyable que ça lui donnerait envie de vivre, même dans un fauteuil roulant, puisque je l'avais entendu dire alors qu'il était quasiment paralysé après un accident. Le jour où je suis dans un fauteuil roulant, je me tire une balle dans la tête. Là, je me suis dit, je vais être le premier romancier publié à 10 ans. Quoi. Donc, et j'ai envoyé mes manuscrits chez les éditeurs. Alors, ça n'a pas marché, c'est la chirurgie qui a sauvé mon père, c'est pas moi.
Mais il ne s'est pas suicidé.
Non, mais c'est vrai que vous avez raison. Si cette thématique se retrouve dans mes livres, c'est que ça a complètement baigné mon enfance. Et surtout, l'idée que la mort n'est pas une fatalité. Il ne faut pas que la peur, il ne faut pas que l'angoisse, le défaitisme prennent le pas sur l'énergie vitale. On a le droit de décider de mettre un point final à ces jours. Et en même temps, on a le droit de changer d'avis, de revenir là-dessus. Et je pense qu'il faut respecter...
Pardon, hein, mais je dis ça pour Britney Spears. Si on change d'avis une fois qu'on est mort, c'est trop tard. Elle avait dit Britney Spears, je suis pour la peine de mort, parce que comme ça, quelqu'un qui fait une connerie, le coup d'après, il réfléchira.
Oui, pour sa vie prochaine.
Ça ne s'en rend pas.
Comment Britney Spears.
Dans une perspective de réincarnation, ça peut se défendre, mais sinon... Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres choses personnelles dans le livre?
Non, bah, il y en a plein, je veux dire. Ça.
Alors, je vais dire à quoi je pense. Oui. Il y a un rêve que vous qualifiez de bien glauque. Voilà le rêve de Van Kovelaert, dont il écrit. Hein. J'étais abandonné, adulte, en couche-culotte dans une poubelle jaune, j'entendais toc-toc, on ouvrait le couvercle et c'était Madeleine qui disait que je devais changer de poubelle à cause du tri sélectif. Ça va mieux ?
Alors, il faut dire, il faut resituer dans le contexte.
Non, mais c'est pas ça. Mais je me suis dit, le gars, il écrit quand même, il est en couche-culotte adulte.
Alors, n'allez pas chercher là dans mes fantasmes d'adulte.
Bah, c'est ça, évidemment.
No,
c'est ça que je pensais. Bah, évidemment.
Mais non. Là, c'est quand même, c'est lui, c'est mon personnage. Alors ça, par exemple, c'est parti de quelqu'un qui était le meilleur ami de Michel Legrand, qui était mon meilleur ami, et qui était son copilote. C'était un petit bonhomme qui s'appelait Pierrot, qui avait été abandonné dans une poubelle. Et au lieu d'en vouloir à la terre entière, il a eu ce mot extraordinaire qui m'a vraiment marqué. Il disait, oh là, heureusement que ma mère m'avait laissé dans une poubelle. Pourquoi? Bah oui, c'était Noël, il faisait terriblement froid, sinon je serais mort de froid, quoi. Donc tout à coup, là, la gratitude, elle peut se greffer à l'endroit où on a toutes les raisons de haïr et d'en vouloir. Voilà là, les choses personnelles qu'on retrouve après comme des articulations de mes romans.
Parfois l'histoire semble ahurissante, mais il y a des zones de réalité. Je sais que vous aimez beaucoup les infos scientifiques. Quand vous parlez de cocktails de médicaments très dangereux pour la santé mentale, vous avez inventé, vous avez fait des recherches?
Ah oui, bien sûr, ça existe.
Ça existe. Ouais, donc, kétamine, à pas prendre avec du Pentarex. J'ai appris ça de vous.
Ouais, j'ai juste inventé les noms.
Ah, d'accord.
Je vais vérifier. Ouais, parce que...
Ah bah, attendez. Vous avez vérifié, mais, vous avez inventé les
molécules.
Noms. Les molécules sont les bonnes molécules.
Bien sûr.
D'accord.
C'est pas compliqué. Et ça, on sait qu'on peut tout à fait simuler les effets de l'Alzheimer avec ce genre de molécules assemblées.
Et j'ai appris par vous que le Conseil de l'Ordre des médecins, je sais pas si vous savez ça, les garçons, avait été créé par Pétain, sur le modèle nazi.
Oui, bah c'est l'une des dernières créations de l'État français, comme disait Pétain, qui perdure avec la fête des mères.
C'est la fête des mères, je savais.
Qu'il avait recréé, hein, c'est pas lui, c'était une chose de très ancien qui remontait, je crois, au Moyen-Âge, mais bon, qu'il a remis, qui est toujours en activité. Mais c'est vrai que le principe des conseils de l'ordre, c'était calqué sur le modèle nazi.
Et alors, il y a beaucoup plus joyeux dans ce livre, il y a notamment la Floride de chez Renault. On en parle tout de suite après ça.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez votre grand journal du soir, Philippe Andel.
Suite de la demi-heure culturelle de ce 18-20 avec Diane Chénouda, Mathieu Charrier, Thierry Geffrotin et Didier Van Kovelaert qui vient de publier chez Albin Michel La Personne de Confiance, une histoire abracadabrantesque et pourtant très réaliste qui vous emporte. La vieille Floride de chez Renault, elle existe vraiment?
Oui, bien sûr.
Je veux dire, ce qui m'a frappé, c'est pas qu'elle existe parce que je l'ai vue et j'adore cette voiture. J'ai appris qu'elle a une tenue de route tellement aléatoire qu'il faut mettre un sac de plâtre de 30 kilos dans le coffre avant.
Là, je parle d'expérience.
C'était ma question.
Mais c'est pareil que c'était le moteur dérivé de la Dauphine et, ouais. c'était pareil sur les R8.
Ah oui.
C'est vrai que le moteur est à l'arrière, ouais. le train avance est trop léger, donc un sac de ciment ou de plâtre,
ouais.
c'est ce que j'avais trouvé de mieux personnellement pour avoir une tenue route à peu près acceptable.
Vous n'aviez pas d'enfant, pas de chien.
C'était ma première voiture. Voilà, donc,
Et maintenant, vous roulez toujours en ancienne?
Oui.
Vous roulez avec quoi alors?
Rouler en ancienne, déjà, ça change votre regard sur la route, ça change le regard des gens. Ils sont beaucoup plus sympas avec vous, y compris les flics d'ailleurs.
Ah oui?
Ah ouais. Et ma plus ancienne, enfin la plus ancienne de mes vieilles, si je puis dire, c'est une Rover P410 de 1960. C'est une voiture qu'on voit passer dans un album de Tintin avec les portes suicides qui s'ouvrent à l'envers.
Ah oui.
Les portes arrière.
Je vois très bien.
Et voilà, c'est une voiture qui pèse 2 tonnes.
Et là maintenant, vous roulez avec quoi? Vous roulez avec celle-ci toujours?
Oui.
C'est
celle à laquelle je roule le plus souvent. En plus, je fais ma gym dedans parce que pas de direction assistée sur 2 tonnes d'aluminium.
Donc ça fait les bras.
Ah ouais, c'est
comme les pilotes de Formule 1 il y a 30 ans de ça.
Absolument, ça, c'est plus gai que de faire du sport en salle.
C'était Popeye. Vous avez vraiment roulé dans un vieux corbillard?
Oui, alors ça c'était...
Ou c'est une légende?
Non, c'est vrai. C'est-à-dire que la première, je flashais sur 3 voitures, c'était... Corbillard, vous vous rappelez les publicités pour Canada Dry là, avec le corbillard dans lequel, au moment de la prohibition, ouais. on mettait les bouteilles de whisky frelatées dans les cercueils. Et donc j'étais tombé voilà, sur un Citroën C4 de l'époque, c'était la vieille dénomination. Et j'étais parti parce que c'était génial, parce qu'il y avait encore des immortels, des fleurs plastiques à l'arrière, il n'y a pas le cercueil, mais alors c'était génial parce que les gens se signaient sur votre passage. pour draguer, c'est assez épatant là aussi,
ah oui
parce que oui, à l'arrière, il y avait les banquettes sur lesquelles se mettaient les croque-morts,
ouais.
les banquettes.
Non mais la banquette, ça veut dire qu'on est au-delà du stade de la drague, on est déjà aux travaux
oui,
pratiques.
Oui, c'est ça, vous m'avez...
D'accord.
Vous êtes allé plus vite que moi là.
Non, vous dites pour draguer c'est moyen, j'imagine non. Dire à une fille, tu sais quoi, j'ai un corbillard, elle dire waouh, c'est qui ce malade, non?
Ça dépend parce que ça, il y a des prestations additionnelles.
Les gothiques, elles aiment ça.
Mais voilà, c'était ça. D'ailleurs, je ne l'ai pas gardé longtemps parce que les freins ont lâché. J'ai arrivé sur un passage piéton, alors j'ai failli écraser quelqu'un. J'aurais pu le mettre directement à l'arrière, vous me diriez, mais donc c'est là où après
on
je
a
suis
tous
passé,
l'image.
Voilà. Mais c'est vrai que j'ai roulé 4 jours avec.
Je deviens sérieux, vous écrivez page 132, on finit par devenir ce que les gens pensent de vous. Et donc, vous, dit Van Kovelaert, vous avez fini par devenir quoi? Qu'est-ce que les gens pensent de vous?
Non, alors d'abord, ça s'adapte, c'est pas moi qui parle à ce moment-là. Mais
oui, écrivez cette phrase.
Oui,
moi,
mais...
je pense pas ça du tout. Moi, je pense que chacun devient ce qu'il est et que les gens peuvent penser de vous tout à fait autre chose que ce que vous êtes. Donc, c'est pour ça que cette phrase m'a étonné.
Non,
et que je me dis, tiens,
non,
c'est-à-dire, ça va faire une bonne question.
C'est-à-dire que,
en toute modestie,
vu de l'extérieur, à un moment donné... Quand les gens pensent que vous êtes quelqu'un de négatif, quand vous projettez du négatif, vous risquez à force même de vous en défendre contre ça, de le reprojeter. Et puis, quand personne ne croit en vous, quand vous pouvez aussi devenir espèce de loser. C'est la situation de mon personnage avant qu'il ne rencontre cette vieille dame qui va complètement métamorphoser son destin et qui va... en profiter largement, elle aussi.
Non mais j'ai compris tout ça, ça c'est dans le roman, mais vous-même, qu'est-ce que les gens pensent de vous?
Je n'ai pas besoin d'être aimé, moi j'ai besoin qu'on aime mes personnages, par exemple. J'ai besoin qu'ils soient importants pour les gens, j'ai besoin qu'on m'en parle comme si c'était des êtres vivants, des copains, des copines, comme qu'on en tombe amoureux. Voilà, après moi je suis quelqu'un qui est toujours pris des risques d'être là où on ne m'attendait pas forcément. Je m'efforce de jamais refaire le même bouquin, de ne pas me dire qu'il y a une recette de succès. Je vais exploiter. J'aime bien me surprendre.
Mais oui, tiens, il n'y a pas de chien qui parle, il n'y a pas d'arbre qui parle, vous ne parlez pas aux morts. C'était un choix. Vous l'aviez trop fait?
Non, mais justement...
Il y avait ça dans vos précédents romans, justement?
Ah ben, tout dépend de l'exigence intérieure d'une histoire. Parfois, il y a besoin d'avoir recours à une palette de récits incluant le fantastique, incluant un hyper-réalisme. Dans ce roman-ci, je n'allais pas mettre des fantômes pour mettre des fantômes, non, il n'y a pas besoin.
Ça peut devenir un film? C'est écrit comme un film?
Non, ce n'est pas écrit comme un film. Parce
parfois, il y a des rappels de scénarios. Parfois, je me dis, c'est Page Turner, on dirait des séquences qui Oui, pour mais moi, parce que, mais, vous l'avez écrit comme un scénario.
Si vous voulez, moi j'écris à voix haute. Donc, non, c'est pas du tout. Et c'est très littéraire en construction, puisque c'est quelqu'un qui donne, qui est un, comme on dit, en garde à vue, qui a repris le pouvoir narratif sur les événements. Mmh. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il ne dit pas tout ça? Il nous recrée un monde. Et c'est. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire jaillir, quand j'écris un livre, c'est de faire jaillir des images à partir de sonorités. Quand vous regardez, c'est pas du tout écrit comme un scénario. Il y a très peu de dialogue, il y a du dialogue rapporté, il y a beaucoup de
ah non, mais moi, ce que je voulais vous dire par là, c'est que je voyais les scènes, bim, 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 avec plein de scènes, et puis le personnage de la vieille dame, je spoil pas, en racontant qu'au début, elle est mamie zinzin, et à la fin, ça devient une sorte de grand-mère indigne, limite punk, je me disais, waouh, qui va être le personnage qui va pouvoir jouer ça?
Bon, je peux pas vous donner des noms encore, parce que oui, il y a des projets cinéma qui se dessinent, pas forcément franco-français d'ailleurs, d'où perspective d'avoir, voilà, quelqu'un d'extraordinaire qui n'est pas français, mais je ne vous en dirai pas plus. Mais
non, petit scoop.
Ouais, c'est une possibilité. Vous savez, il faut toujours être prudent sur le devenir des films. Là, il y a un grand intérêt qui s'est noué à l'international déjà aussi. Donc voilà, c'est. Mais imaginez, bon, je vous dis pas que c'est elle, hein, mais quelqu'un comme Maggie Smith dans ce rôle-là.
Ça vous parle, Maggie Smith, Mathieu Charrier?
Oui, non, mais je veux commencer par lire ce livre parce que vous nous donnez très envie de le lire.
Très envie, vraiment.
Alors, Mathieu
Charrier.
C'est
pas toujours le cas, on reçoit beaucoup d'auteurs et ça, ouais. Parfois on se dit bon.
Des noms, Mathieu.
Non,
des noms,
non, ouais. Pas des noms, mais.
Même parfois, Mathieu Charrier s'est barré pendant l'interview. C'est pas vrai. Ce soir, vous nous conseillez, Mathieu, le nouveau film d'André Téchiné, L'Adieu à la nuit, porté notamment par Catherine Deneuve.
Eh oui, André Téchiné qui s'attaque à un sujet alors compliqué, très compliqué, même celui des jeunes Français tentés par le djihad. L'histoire est donc celle de Muriel, c'est Catherine Deneuve, elle tient un centre équestre dans les Pyrénées, elle mène une vie assez paisible, et puis surtout elle est très heureuse puisque son petit-fils, qui s'appelle Alex, qui a ses mots d'éclin dans le film, vient passer quelques jours chez elle avant, officiellement, de partir vivre au Canada. Sauf que Muriel va vite se rendre compte qu'en fait, Alex a un autre projet en tête.
Est-ce que t'es heureuse ?
Oui, je suis heureuse de la vie que je mène, surtout quand tu viens me voir.
Subhana Rabbi al-Hadim, Subhana Rabbi al-Hadim, Allahu Akbar. Tu m'as vu?
Mais je savais pas que...
Je savais pas que quoi?
Que tu étais croyant.
Maintenant tu le sais. Je t'aime grand-mère, peut-être que je ne te l'ai pas assez montré, mais je t'aime beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, je ne t'oublierai jamais.
Voilà, ça c'est la lettre qu'Alex laisse avant de partir. Alors Muriel, évidemment, s'en rend compte, elle découvre cette lettre et elle va tout faire pour l'arrêter.
Et c'est là, me disiez-vous, que le film devient vraiment intéressant.
Oui, parce que Muriel, au départ, c'est quelqu'un de réfléchi, qui respecte même la vie privée d'Alex. Mais que faire finalement? Le laisser partir, risquer sa vie? Pas question, le raisonner? Impossible, l'écouter pour essayer de le comprendre, très difficile. Donc Muriel va faire eh bien, comme elle peut. Alors parfois c'est irraisonné, elle va notamment l'enfermer dans une écurie pendant toute une nuit, partir aussi à la recherche d'un djihadiste rentré du djihad, qui est sorti de prison et qui pourrait essayer de raisonner Alex. Bref, elle va faire tout ce qu'elle peut. Ce qui est intéressant, selon le réalisateur André Téchiné, c'était surtout d'écouter les paroles de ces jeunes tentés par le djihad.
J'ai pas du tout voulu faire un film à thèse sur la radicalisation. Non, en fait, je suis parti de témoignages de ces jeunes islamistes. Et j'ai été très fasciné par leurs paroles. Et c'est cette parole que j'avais envie de respecter. La presse les appelait les pieds nickelés du sentier d'Allah. Je trouvais quand même que c'était un peu méprisant. Donc je suis allé voir de plus près. Mais le film, c'est une fiction. C'est qu'est-ce que cette grand-mère peut faire? Dieu merci, pour moi, il reste humain. Et c'est justement... à leur insu, cette part humaine qui m'a intéressé chez eux.
Voilà, je vais vous dire, toute cette tension, ces échanges entre la grand-mère et le petit-fils, c'est ce qui fait l'intérêt de ce film, qui est assez doux hein, d'ailleurs comme film, malgré la violence de ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. En même temps, la petite réserve, c'est qu'on ne comprend pas très bien le fondement de la radicalisation d'Alex. Il y a bien sa petite amie Lila qui l'y pousse, mais c'est un petit peu court. Donc voilà, malgré cette réserve, ça reste un bon film d'André Téchiné. Ça s'appelle L'Adieu à la nuit et c'est en salle.
Merci beaucoup Mathieu Charrier. À suivre dans la demi-heure culturelle, toujours en compagnie de Didier Van Kovelaert, on va parler de musique, de bande dessinée et également de Fourrière. À tout de suite.
Il est tout juste 19h48 et on va continuer à parler culture dans votre grand journal du soir sur Europe 1. On retrouve Philippe Vandel.
Suite et fin de cette demi-heure culturelle avec Diane Chenouda, Mathieu Charrier, Thierry Geffrotin et Didier Van Kovelaert qui vient de publier chez Albin Michel « La personne de confiance ». Alors Thierry Geffrotin, vous nous avez apporté un album de bande dessinée pas comme les autres, Thierry, et pour tout dire, exceptionnel. Son auteur, c'est François Bouc, un grand nom de la BD.
Oui, absolument. Bouc a commencé sa carrière il y a 40 ans, d'abord au Point, l'Expansion, dans Playboy. Ça vous parle, ça, Philippe?
Oui, enfin, j'étais jeune, hein, et j'avais pas le droit de le lire.
Ben voilà. À l'époque, il fait des caricatures politiques, et puis il rejoindra Pilote, Philippe Glacial, vous voyez. Mmh. La bonne matière. François Bouc, il a reçu, entre autres, ça va plaire à Mathieu qui adore aussi la bande dessinée, il a reçu le Grand Prix de la ville d'Angoulême. Il a reçu aussi le prix Albert Uderzo pour l'ensemble de son œuvre. Vous voyez, c'est quelqu'un de solide. Il est à la fois scénariste et dessinateur avec un style fouillé, un humour basé sur l'absurde, la dérision. Vous voyez, c'est quelqu'un... Moi qui me plaît d'emblée.
Et d'absurde, il en est question dans ce nouvel album.
Ah ouais, alors de l'absurde et du bizarre, à commencer par la couverture de cet album. Alors regardez bien, je vous présente.
On dirait
pas
du Magritte.
Ouais, mais il n'y a pas de titre surtout. Vous avez remarqué, on voit un personnage, un homme invisible en fait, hein. Il n'y a pas de visage. Hein.
Ouais.
Il porte quand même
un chapeau. Il y a son chapeau panthère,
voilà.
Le fameux.
Ouais, une veste, une cravate, le tout avec des motifs léopards. Allez, j'ai oublié un stylo au milieu là, de ce qui devrait être le visage à la place du nez. Quoi. Alors les amateurs et connaisseurs de l'univers François Bouc ont reconnu son héros, Jérôme Mouchereau, agent d'assurance de son état, mais surtout, très important, aventurier des temps modernes, grand fauve, avec son costume léopard et son stylo planté dans le lit. Dans cette nouvelle aventure, Jérôme Mouchereau se réveille un matin sans visage. Il est dans sa salle de bain, il n'y a plus de visage. Et il va partir à la recherche de lui-même, de son moi intérieur. Mais comme c'est un bon mari, ouais. Il fera ça dehors pour ne pas salir la maison.
Et là, ce que vous nous racontez, c'est à la fois délirant et fantastique.
Oui, c'est aussi surréaliste, d'une certaine manière philosophique, car cette quête intérieure pleine de rebondissements va par exemple nous faire découvrir que le nombril du monde se trouve à l'exacte verticale du trou du cul du monde.
Ah ouais.
Ça rend humble. Hein. Jérôme Mouchereau va faire la connaissance d'une tisseuse, c'est bien tisseuse, hein, ouais. De bonne aventure. Il rencontre aussi le pape de la paperasse et il emprunte, ça c'est très beau, l'autoroute de l'évolution humaine et animale.
Et alors Thierry, vous avez rencontré l'auteur François Bouc en personne. Il en parle comment de ce nouvel album et de l'histoire qu'il a imaginée.
Ah voilà, bah on va l'écouter tout simplement parce que c'est une histoire qui lui a demandé quand même beaucoup de travail.
En commençant cette histoire, donc je pensais faire une petite histoire de 40 pages, 40-50 pages, et de fil en aiguille, un événement en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, et on finit par un album de 170 pages. Ça peut s'apparenter à la philosophie, ouais, surtout à la fantaisie, ça sans aucun doute, et à la folie aussi parfois, parce que bien sûr, il y a des moments où vous dites, quand vous dessinez un album comme celui-là, je ne vais jamais réussir à faire ce qu'il me demande, je parle du personnage, et puis vous vous lancez dedans et vous y arrivez.
J'aime beaucoup sa voix. François Bouc, grand maître de la BD, de la bande dessinée.
Ah, oui, absolument. C'est l'un des grands dessinateurs franco-belges, un virtuose. Et dans ce nouvel album, je veux dire qu'il fait alterner des scènes de jungle absolument incroyables, des ambiances sauvages avec des couleurs luxuriantes, des canyons ocre et à l'opposé, ou plutôt dans la continuité, des planches en noir et blanc, tout aussi travaillées. Et il y a même une planche totalement blanche lorsque Jérôme Mouchereau, son héros, a disparu. Une surprise à chaque page, ou presque. Je pense que vous l'avez compris, il n'y a pas que la couverture qui est surprenante. Ce nouvel album de François Bouc, édité au Lombard, est en tout point exceptionnel. Exceptionnel enfin, je vous prends encore un peu de temps, Philippe.
Allez-y.
Les dernières pages, où l'on découvre que le héros, il a inspiré des artistes comme Ingres, Dali, Picasso, Magritte. Je n'en dis pas plus, il y a quelques planches assez phénoménales à la fin de l'ouvrage.
Ah, dis donc, ça donne envie. Et puis c'est la référence quand même. Picasso, il était un petit peu connu. Je me tourne vers vous, Didier Van Kovelaert. En 2011, vous aviez publié L'enfant qui venait d'un livre, c'était deux ouvrages, c'était un coffret avec à la fois un roman et un manga. Vous êtes fan de BD ?
Oui, oui, et puis la rencontre justement entre l'univers de l'écriture et puis ce que permet la bande dessinée, et je suis fan de Bouc moi aussi, cette rigueur dans la fantaisie et le sens du fantastique qui est vraiment typiquement belge. Et mes origines belges frémissent toujours là, quand je suis... Voilà, parce que ce courant qui va de Delvaux, Magritte, en passant par De Vos jusqu'à Poulvord, tout ça, on est vraiment dans un surréalisme ultra rigoureux, un absurde maîtrisé et une très grande humanité derrière quelque chose qui a l'air complètement dingue.
J'ai lu quelque chose dans le Figaro, ça n'a rien à voir, mais je remets les pieds dans la glace du réel. Samedi dernier, Jacques Pessis dans le Figaro racontait que vous êtes arrivé la mésaventure décrite par votre livre. Vous êtes fait choper par la fourrière.
Oui, mais je l'avais bien cherché. En fait, j'avais fait l'émission d'Anne Roumanoff
sur
Europe. Ouais. Et puis, donc, on avait évoqué tout ce que fait dans la totale illégalité un grutier de la Fourrière, puisque le 4x4 qui vous enlève votre voiture n'a pas le droit de soulever un véhicule de plus de 750 kg, parce qu'il n'y a pas de freinage assisté, tout ça. Donc déjà, comme ça marche que comme ça à Paris. Et puis, le lendemain, je m'étais garé, j'avais une course urgente à faire, sachant que les emplacements livraison avec des hachures, vous pouvez vous y mettre à partir de 20h. Quand il y a la double ligne continue, ça, c'est pas possible, on vous enlève tout de suite. Mais c'était un peu avant 20h quand je me suis mis dessus. Et quand j'arrive, il y avait un gars qui allait installer, il n'avait pas soulevé la voiture encore.
D'accord.
Et à ce moment-là, j'explique, bon, vraiment, ça y est, maintenant, dans 2 minutes, il est 20h, donc soyez sympa. Et là, il se relève et il voit. J'avais un exemplaire de livre que j'allais donner à quelqu'un après. Et il me dit, oh ben c'est le mec que j'ai entendu chez Roumanoff. Et je dis, oui, c'est moi. Et OK, alors je veux pas d'histoire. Et il est reparti. Comme quoi, merci la littérature et merci Europe 1, je veux dire, parce que là, il n'avait pas lu le livre, mais il avait entendu parler. Et il savait très bien ce que je disais était vrai. Donc, oh, je veux pas d'histoire.
On n'aura pas mieux comme chute. Diane Chénouda, je me tourne vers vous. Vous allez nous faire découvrir une jeune chanteuse qui vient d'avoir le prix du Printemps de Bourges. Elle s'appelle Silly Boy Blue. Boy, comme garçon ?
Oui, c'est ça. C'est son côté androgyne, même si c'est vraiment une fille. Elle n'a que 22 ans, une fille brune aux cheveux mi-longs. Et ce qui est amusant, figurez-vous Philippe, c'est que je l'avais déjà vue en concert bien avant Bourges. C'était il y a quelques semaines à Sannois, près de Paris, et en première partie de Canine. Vous savez, ce groupe de filles mené par une chanteuse masquée.
Oui.
Et alors, je l'avais repérée, figurez-vous, Silly Boy Blue. J'avais beaucoup aimé son côté un peu, je dirais, PJ Harvey, moi, dont je suis fan, et Lana Del Rey.
Ah,
il y a quelques
non,
accents comme ça. Bah, oui, mais vous allez voir, écoutez. Alors, elle est fascinée justement par les icônes rock et la noirceur New Wave des années 80. Alors là, c'est un extrait donc de son premier EP. Vous savez, c'est un mini CD, Bat You Will, c'est le nom de ce mini disque. Dana Benabdelkarim, c'est le vrai nom de cette jeune femme originaire de Nantes qui vit aujourd'hui à Paris. Elle s'est donc choisi ce pseudo anglais Silly Boy Blue. Elle ne chante qu'en anglais d'ailleurs. Sorte d'hommage à David Bowie, à son personnage androgyne, masculin, féminin.
Silly Boy Blue, ça veut dire un gars idiot bleu. Oui. Alors sinon, elle est comment sur scène ?
Alors écoutez, elle chante seule pour l'instant, juste avec son ordi à côté d'elle, une guitare électrique. Elle est vraiment habitée par son chant. Elle chante ses tourments, ses désirs, ses amours inachevés de post-adolescente, des chansons qu'elle compose seule dans sa chambre, avec son ordinateur, une carte son, une guitare, quelques synthés, et voilà. Ça donne des morceaux mélancoliques, planants, avec juste le son d'un piano, guitare, des sons purement électro et ses envolées vocales, elle a quand même une voix puissante. Elle a une belle voix, hein ? Et tout ça tout seul. Voilà, elle avait quand même commencé dans un groupe à 19 ans, le groupe Pégase, comme chanteuse et au clavier et à la basse.
Et ça, ça lui ouvre les portes de ce prix du Printemps de Bourges, j'imagine.
Ah oui, elle fera une tournée cet automne et ce prix lui permet de participer à d'autres festivals ce printemps et cet été. Et donc là, elle a joué à Bourges, elle a remporté ce prix qu'avait déjà reçu des gens qui explosent aujourd'hui. Hein. Christine and the Queens, Eddie De Pretto, Last Train.
Ah oui.
Donc c'est... voilà.
Alors où est-ce qu'on va la voir ?
On va la voir le 30 avril à Rouville, donc très bientôt en première partie de Loudoyon. Elle sera également le 14 mai à Strasbourg, toujours en première partie de Lou, 1er juin à Toulouse, et on la verra notamment au Francophonie. Hein. Elle passera le 12 juillet.
Silly Boy Blue, à découvrir donc, elle a reçu le prix du Printemps de Bourges. On peut écouter déjà son premier EP, c'est un mini CD, But You Will. Merci beaucoup Diane Chénouda.